23. Jenner Leggen avait la mine sombre. Ce n'était pas tant à cause de son teint plutôt clair ou de ses sourcils qui étaient bruns et fournis. C'était plutôt parce que les 10 sourcils surmontaient des yeux profondément enfoncés dans les orbites et un long nez proéminent, ce qui lui donnait cet air passablement chagrin. Ses yeux ne souriaient pas, et lorsqu'il parlait, ce qui était rare, c'était d'une voix grave et forte, étrangement sonore, pour ce corps plutôt grêle.
« Vous allez avoir besoin de vêtements plus chauds, » dit-il à Seldon.
« Ah ? » fit ce dernier en regardant autour de lui. Il y avait 2 hommes et 2 femmes qui s'apprêtaient à monter avec Leggen et lui, et comme ceux de Leggen, leurs légers vêtements trentoriens étaient recouverts de pulls épais décorés, ce n'était pas une surprise, de motifs voyants, aux couleurs vives. Il n'y en avait pas de pareils, bien sûr. Seldon baissa les yeux sur sa propre mise et s'excusa.
« Désolé, je ne savais pas. Mais je n'ai pas le moindre vêtement chaud.
Je peux vous en donner. Je crois bien qu'il y a quelque part une tenue de rechange.
Oui. Tenez, voilà un pull, un peu élimé, mais enfin, c'est toujours mieux que rien.
On risque d'avoir désagréablement chaud avec un truc pareil, » remarqua Seldon.
Ici, sûrement. Mais il règne d'autres conditions sur la couverture, froid et vent. Dommage que je n'ai pas de jambière et de bottes à vous prêter. Vous regretterez tout à l'heure de ne pas en avoir.
Ils emportaient avec eux un chariot bourré d'instruments qu'ils étaient en train de vérifier avec une lenteur bien inutile aux yeux de Seldon.
Fait froid sur votre planète ?
Demanda Leggen.
Par endroit, répondit Seldon.
Le monde d'Helicon, dont je suis originaire, jouit d'un climat doux et souvent pluvieux. Pas de veine. Le climat de la couverture risque de ne pas vous plaire.
Je pense être en mesure de le supporter tant que nous serons là-haut.
Dès qu'ils furent prêts, leur groupe monta dans un ascenseur marqué « strictement réservé au personnel officiel ».
« C'est parce qu'il permet d'accéder à la couverture », expliqua l'une des jeunes femmes. « Et les gens ne sont pas censés aller là-haut sans raison valable. »
Seldon n'avait pas encore rencontré cette jeune femme, mais il l'avait entendue se faire appeler Clausia. Il ignorait si c'était un prénom, un nom de famille ou un surnom. L'ascenseur ressemblait à ceux que Seldon connaissait ici sur Trentor ou chez lui à Helicon, hormis bien sûr l'appareil gravifique que Eumine et lui avaient utilisé, mais la certitude qu'il allait le mener au-delà des confins de la planète et jusqu'au vide au-dessus d'elle lui donnait des airs d'astronef. Seldon sourit intérieurement. Fantasme stupide. La cabine vibrait un peu, ce qui lui remit en tête les sombres pressentiments de Eumine sur la décadence galactique. Leggen, de même que ses collègues mâles et l'une des femmes, semblaient figés et interdits, comme s'ils avaient suspendu toute pensée, toute activité jusqu'à la sortie. Clausia, en revanche, ne cessait de lui jeter des coups d'œil à la dérobée, comme si elle le trouvait terriblement impressionnant. Seldon se pencha pour lui murmurer à l'oreille, il hésitait à déranger les autres, « Allons-nous monter très haut ?»«
Haut ?»
répéta-t-elle d'une voix normale, apparemment inconsciente du silence ambiant. Elle paraissait très jeune, et Seldon se dit qu'elle était sans doute étudiante de première année, apprentie peut-être. Cela prend du temps. La couverture doit être située à un niveau très élevé. Un moment, elle parut intriguée, puis
« Oh non, pas élevé du tout. Nous avons démarré très bas. L'université est située à une grande profondeur. Nous utilisons d'énormes quantités d'énergie, et plus on est bas, plus le coût énergétique diminue. »
Leggen intervint.
Très bien, nous y sommes. Sortons le matériel.
La cabine s'arrêta avec un léger tremblement et la large porte coulissa rapidement. La température dégringola aussitôt et Seldon fourra les mains dans ses poches, bien content d'avoir enfilé un pull. Un vent froid lui ébouriffa les cheveux et il se rendit compte qu'un bonnet n'aurait pas été de trop. Alors même qu'il formulait cette pensée, Leggen sortit quelque chose d'un repli de son chandail, l'ouvrit d'un geste sec et se le mit sur la tête. Les autres firent de même. Seule Clausia hésita. Elle s'arrêta juste avant de mettre le sien, puis l'offrit à Seldon. Ce dernier secoua la tête.
« Je ne peux pas vous prendre votre bonnet, Clausia.
Allez-y. J'ai les cheveux longs et épais. Les vôtres sont courts et un peu dégarnis. »
Seldon aurait bien aimé contester cette remarque, et en d'autres circonstances, il ne s'en serait pas privé. Pour l'heure, toutefois, il se contenta de saisir le couvre-chef en marmonnant « Merci. Si vous avez froid à la tête, je vous le rends. »
Peut-être n'était-elle pas si jeune. C'était à cause de son visage rond presque poupin, et maintenant qu'elle avait attiré son attention sur sa chevelure, il remarqua qu'elle était d'un brun roux tout à fait charmant. Il n'avait jamais vu de tels cheveux sur Ellicone.
Dehors, le ciel était couvert, comme lorsqu'on l'avait emmené à l'air libre pour le conduire au palais. Le froid était bien plus vif, mais il se dit que l'hiver s'était rapproché de 6 semaines. Les nuages étaient plus épais que lors de cette première sortie, et le jour plus sombre et menaçant, ou bien la nuit était-elle plus proche?
Il n'allait certainement pas monter faire un travail important sans se réserver une ample période de lumière du jour pour l'effectuer, ou bien escomptait-il le réaliser en un temps très court? Il aurait bien aimé le leur demander, mais il s'avisa que le moment était peut-être mal choisi. Tous paraissaient être dans des états allant de l'excitation à la colère.
Seldon inspecta les alentours. Il se tenait sur une surface qui semblait métallique au bruit qu'elle rendit quand discrètement il la martela du pied. Pourtant ce n'était pas du métal nu, il y laissait des empreintes en marchant. La surface était manifestement recouverte de poussière, ou peut-être de sable fin ou d'argile.
Et pourquoi pas? Il y avait peu de chances que quelqu'un monte ici faire le ménage. Par curiosité, il se pencha pour saisir un peu de cette poussière entre les doigts. Clausia, derrière lui, remarqua ce qu'il faisait et dit, l'air d'une ménagère prise en flagrant délit de négligence,
« On balaie le secteur pour protéger les instruments. C'est bien pire à d'autres endroits de la couverture, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ça renforce l'isolation, vous savez. »
Seldon grommela et poursuivit ses observations. Il n'avait aucune chance de comprendre la fonction des appareils qui donnaient l'impression de jaillir de cette mince couche de sol, si l'on pouvait l'appeler ainsi. Il n'avait pas la moindre idée de leur nature, ou de ce qu'ils mesuraient.
Legan se dirigeait vers lui. Il levait haut les jambes et posait les pieds avec précaution, et Seldon s'aperçut qu'il procédait ainsi pour éviter de déranger les instruments. Il nota mentalement de marcher d'eux-mêmes.
« Et vous, Seldon ?»
Seldon n'apprécia guère le ton de sa voix et répliqua glacial.
« Oui, docteur Legan. »« Eh bien, docteur Seldon. »« Alors ?»
fit-il avec impatience.
« Le petit Randa m'a dit que vous étiez mathématicien. »«
C'est exact. »
« Bon mathématicien ?»«
J'aimerais le croire, mais c'est difficile à garantir. »«
Et vous vous intéressez aux problèmes insolubles ?»«
Je bute sur l'un d'entre eux, » répondit-il avec humeur.
« Moi de même. »« Jetez-y un coup d'œil. Ne vous gênez pas. »« Si vous avez des questions, Clausia, notre interne, vous viendra en aide. »« Vous pourrez peut-être nous donner un coup de main. »«
J'en serai ravi. »« Mais je ne connais rien à la météorologie. » »«
Pas grave, Seldon. » Je veux simplement que vous voyez en gros de quoi il retourne. Et ensuite, j'aimerais bien discuter avec vous de mes mathématiques.
Tout à votre service. Legan fit demi-tour, un air résolu sur son long visage grimaçant. Puis il se retourna.
Si jamais vous avez froid, trop froid, la porte de l'ascenseur est ouverte. Vous n'avez qu'à entrer et à toucher le voyant marqué « Université Base ». La cabine vous descendra puis remontera ici automatiquement. Clausia vous montrera si jamais vous oubliez.
Je n'oublierai pas. Cette fois, il partit pour de bon, et en le regardant s'éloigner, Seldon sentait le poignard glacial du vent traverser son chandail. Clausia revint vers lui, le visage légèrement rougi par la bise.
Le docteur Legan avait l'air ennuyé, ou est-ce son air habituel?
Elle gloussa. Effectivement, il a toujours l'air ennuyé, mais cette fois il l'est pour de bon.
« Ah bon? Pourquoi ?» demanda tout naturellement Seldon. Clausia regarda derrière elle, faisant voltiger ses longs cheveux. Puis elle confia
« Je ne suis pas censé le savoir, mais je le sais quand même. Le docteur Legan avait calculé qu'aujourd'hui, à 7 heures précise, il devait se produire une percée dans la couche nuageuse, et il avait escompté effectuer certaines mesures particulières à la lumière du soleil. Seulement... « Eh bien, regardez le temps. »
Seldon acquiesça.
« Nous avons ici des caméras d'holovision. Il savait donc que le temps était couvert, plus encore que d'habitude, et je suppose qu'il espérait découvrir une défaillance des instruments, si bien que tout serait de leur faute et que sa théorie serait hors de cause. Seulement jusqu'à présent, on n'a rien décelé d'anormal dans leur fonctionnement.
Et c'est ça qui lui donne cet air malheureux ?
Eh bien, il n'a jamais l'air vraiment heureux.
Seldon regarda alentour en plissant les yeux. Malgré les nuages, la lumière était vive. Il se rendit compte que la surface sous ses pieds n'était pas parfaitement horizontale. Il se tenait au sommet d'un dôme aplati, et lorsqu'il regarda au loin, il découvrit d'autres dômes dans toutes les directions, plus ou moins larges et hauts.
« La surface de la couverture paraît irrégulière, » remarqua-t-il.
« C'est à peu près partout pareil, je crois. Ça s'est trouvé ainsi. »
« Il y a une raison particulière ?»«
Pas vraiment. D'après les explications que j'ai entendues, j'ai regardé autour de moi et posé des questions comme vous savez. Les gens de Trentor ont d'abord mis sous dôme certains édifices, les galeries commerciales, les terrains de sport, des choses comme ça, puis des villes entières, de sorte qu'il y avait des tas de dômes ça et là, plus ou moins hauts, plus ou moins larges. Quand ils se sont tous rejoints, la surface résultante était irrégulière, mais entre-temps... Les gens avaient estimé qu'il ne pouvait pas en être autrement.
Vous voulez dire qu'un élément tout à fait fortuit peut finir par s'intégrer dans une tradition ?
Je suppose, si vous voulez voir les choses ainsi.
Si quelque chose de tout à fait fortuit peut s'intégrer dans une tradition et devenir quasiment intouchable, se dit Seldon, peut-on l'instaurer en loi de la psychohistoire ? Cela paraissait trivial, mais combien d'autres lois tout aussi triviales pouvaient alors exister ? 1 million ? 1 milliard ? Existait-il un nombre relativement réduit de lois générales dont on pouvait déduire en corollaire ces lois triviales ? Comment pourrait-il le dire ? Durant un moment, perdu dans ses pensées, il en oublia presque la morsure du vent. Clausia sentait le vent, toutefois, car elle frissonna et lui dit
« Quel sale temps ! Il fait bien meilleur sous le dôme.
Vous êtes trentorienne ?
En effet.
Seldon se rappela la remarque de Randa sur l'agoraphobie des trentoriens et lui demanda
« Ça ne vous ennuie pas de monter ici ?
Je déteste, mais je veux décrocher mon diplôme de spécialisation et mon poste, et le docteur Legan dit que je ne peux pas l'obtenir sans un minimum de travail sur le terrain. Alors voilà, je me retrouve ici, même si j'ai horreur de ça, surtout quand il fait ce froid. » À propos, avec une température pareille, vous n'imagineriez pas qu'une végétation pousse sur ces dômes, n'est-ce pas ?
Il y en a ?
Il la fixa, l'air sévère, soupçonnant quelques plaisanteries visant à le ridiculiser. Elle semblait parfaitement innocente, mais comment sur ce visage faire la part de la sincérité et des traits enfantins ?
Oh, absolument ! Répondit la jeune femme. Même ici, quand il fait plus doux ? Vous avez remarqué le sol ? On le balaie en permanence à cause de nos travaux, comme je l'ai dit. Mais ailleurs, le terreau s'accumule ça et là, et la couche est particulièrement épaisse dans les déclivités où se rejoignent les dômes. Des plantes y poussent.
Mais d'où vient ce terreau ?
Quand les dômes ne couvraient qu'une partie de la planète, le vent y a déposé de la poussière, petit à petit. Puis, quand Trentor a été entièrement recouverte et qu'on a enfoui les niveaux d'habitation de plus en plus profondément, une partie des déblais, quand il convenait, ont été remontés au-dessus des dômes.
Mais ça aurait dû les défoncer.
Oh non ! Ils sont très solides et étayés pratiquement partout. D'après les vidéolivres que j'ai visionnés, l'idée initiale était de mettre en culture la couverture, mais il était bien plus pratique de le faire sous dôme. Et puis, on pouvait également cultiver les levures et les algues à l'intérieur, ce qui diminuait d'autant l'utilité des cultures classiques, si bien qu'on décida de laisser la couverture en friche. On y trouve également des animaux. Des papillons, des abeilles, des souris, des lapins, il y en a beaucoup.
Les racines ne risquent-elles pas d'endommager les dômes ?
Depuis des milliers d'années, elles n'ont rien fait. Les dômes sont traités pour repousser les racines. La majeure partie du couvert végétal est formée d'herbes, mais il y a également des arbres. Vous pourriez en voir si nous étions à la saison chaude ou plus au sud, ou encore à bord d'un astronef.
Elle le regarda du coin de l'œil.
Est-ce que vous avez vu Trentor quand vous descendiez de l'espace ?
« Non, Clausia. Je dois confesser que non. Les hypernefs n'ont jamais été l'idéal pour admirer le paysage. Et vous ? Avez-vous déjà vu Trentor de l'espace ? Elle sourit timidement.
Je ne suis jamais allée dans l'espace.
Seldon regarda alentour. Du gris partout.
Je n'arrive pas à y croire. À la présence de végétation sur la couverture, je veux dire.
C'est pourtant vrai. J'ai entendu des gens dire, des exos comme vous qui avez pu voir 30 heures de l'espace, que la planète paraît verte comme une pelouse parce que la couverture est pour l'essentiel formée d'herbes et de broussailles. En fait, il y a aussi des arbres. Il y a un bosquet non loin d'ici, je l'ai vu, des résineux, et ils font près de 6 mètres de haut.
Où ça ?
Vous ne pouvez pas le voir d'ici, il est de l'autre côté du dôme. Il est...
L'appel leur parvint, assourdi. Seldon se rendit compte qu'ils avaient marché tout en devisant et s'étaient quelque peu éloignés des autres.
« Clausia, revenez par ici, on a besoin de vous. »«
Ouais !» lança Clausia. « J'arrive !»« Désolé, docteur Seldon, il faut que j'y aille. »
Elle détala, réussissant à courir avec légèreté malgré ses bottes fourrées. S'était-elle jouée de lui ? Avait-elle servi à l'exocrédule une pleine ration de mensonges juste pour s'amuser ? Ce genre de choses se produisait sur toutes les planètes et à toutes les époques. Son air de transparente honnêteté n'était pas une preuve. En fait, les meilleurs fabulateurs cultivaient systématiquement ce genre d'expression. Alors, des arbres de 6 mètres pouvaient-ils réellement croître au-dessus de la couverture ? Sans trop y réfléchir, Seldon se dirigea vers le dôme le plus haut à l'horizon. Il battit des bras pour tenter de se réchauffer, et il avait les pieds engourdis par le froid. Clausia ne lui avait pas indiqué de direction. Elle aurait dû lui donner une indication, mais n'en avait rien fait. Pourquoi ? Évidemment, on l'avait rappelé. Les dômes étaient plus larges que hauts. Une bonne chose, car la progression était bien plus facile. D'autre part, la pente douce l'obligeait à peiner plus longtemps avant de parvenir au sommet pour embrasser du regard l'autre côté. Au bout du compte, il parvint à voir de l'autre côté du dôme qu'il venait d'escalader. Il se retourna pour s'assurer qu'il pouvait encore repérer les météorologues et leurs instruments. Ils étaient à bonne distance, dans une vallée éloignée, mais ils restaient parfaitement visibles.
Bien.
Il ne vit ni bosquet ni arbre, mais une dépression s'étirait entre deux dômes. Au fond de la vallée, le sol était plus épais, avec quelques taches vertes qui devaient être de la mousse. S'il suivait la vallée, et si elle descendait suffisamment et était recouverte d'un sol assez épais, il se pouvait qu'il trouvât des arbres. Il se retourna, cherchant à mémoriser des repères, mais il ne vit que le moutonnement des dômes. Du coup, il hésita, et la mise en garde de Dorse, l'avertissant de ne pas se perdre, qui lui avait paru sur le moment bien superflu, prenait tout son sens à présent. Malgré tout, il lui semblait évident que la vallée dessinait une sorte de route. Il la suivait sur une certaine distance, il n'aurait qu'à faire demi-tour et cheminer en sens inverse pour se retrouver ici. Il se mit donc en marche d'un pas résolu et descendit la vallée au fond plat. Il y avait un grondement assourdi au-dessus de lui, mais il n'y prêta pas attention. Il avait décidé qu'il avait envie de voir des arbres, et c'était tout ce qui l'occupait pour l'instant. La mousse s'épaississait et s'étendait comme un tapis d'où jaillissaient ça et là des touffes d'herbe. Malgré la désolation ambiante, cette mousse était d'un vert soutenu, et Seldon s'avisa que, sur une planète autant couverte et nuageuse, les pluies étaient sans aucun doute abondantes. La vallée continua à s'incurver, puis, juste au-dessus d'un autre dôme, apparut une tache sombre à contre-jour sur le ciel gris. Il sut qu'il avait découvert les arbres. Comme si son esprit, soudain libéré par cette vision, pouvait se tourner vers d'autres choses, Seldon remarqua le grondement qu'il avait déjà perçu et, sans plus réfléchir, classé comme un bruit de machine. À présent, il reconsidérait la question. Était-ce bien en fait un bruit mécanique ? Pourquoi pas ? Il se trouvait sur l'un des innombrables dômes qui couvraient les centaines de millions de kilomètres carrés de la cité planétaire. Il devait y avoir toutes sortes de machines dissimulées sous ces dômes, des moteurs de ventilation déjà. Peut-être pouvait-on les entendre quand les autres bruits de la ville étaient assez éloignés. Mais ce bruit ne semblait pas venir du sol. Il leva les yeux vers le ciel, uniformément morne. Rien. Il continua à scruter l'espace. Les grandes déchirures verticales qui s'ouvraient dans la brume devant ses yeux, et puis, très loin,
Un minuscule point sombre se détacha sur le fond gris. Il semblait évoluer comme s'il cherchait à se repérer avant d'être à nouveau avalé par les nuages.
Sans savoir pourquoi, Seldon pensa « Ils sont à mes trousses ».
Et presque avant d'avoir pu décider d'une ligne d'action, il avait fait son choix. Il courut désespérément en direction des arbres, puis, pour les atteindre plus vite, coupa sur la gauche en escaladant un dôme bas, trébuchant au milieu d'espèces de fougères brunes en train de se dessécher, et parmi lesquelles poussaient également des épineux porteurs de baies rouges vifs.